Il est midi sur Radio Orient. Bonjour à tous. Le journal Loïc Barrière. Les titres de ce journal, deux Palestiniens tués aujourd'hui par l'armée israélienne en Cisjordanie occupée. Le processus d'amitié entre la France et l'Algérie serait mis en danger si Marine Le Pen était élue. Déclaration sur Radio Orient de l'historien Benjamin Stora, auteur d'un rapport sur les questions mémorielles. Interdire le voile dans la rue comme le souhaite la candidate du RN serait contraire à la loi de 1905 et à la Constitution. Avertissement lancé par Nicolas Cadenne, cofondateur de la Vigie de la laïcité. L'émissaire de l'ONU pour le Yémen appelle les parties en conflit à respecter la trêve en vigueur depuis 10 jours. Enfin, l'invité de rencontre à 16h sur Radio Orient sera Karima Anbar, directrice générale de la Fondation Intisar, qui apporte un soutien psychologique aux femmes réfugiées dans le monde arabe, extrait de cette émission. Deux Palestiniens ont été tués ce matin dans une nouvelle opération des forces israéliennes en Cisjordanie occupée. Une opération lancée 6 jours après des attaques meurtrières à Tel Aviv. Ces jeunes Palestiniens ont été tués dans le secteur de Jenin. L'armée israélienne affirme mener des opérations de contre-terrorisme en Cisjordanie occupée. Hier, Marine Le Pen a déclaré vouloir renforcer la relation entre la France et le Maghreb, mais elle a conditionné tout octroi de visa aux Algériens à plusieurs éléments, notamment la mise en œuvre effective du retour en Algérie de ses ressortissants expulsés. Selon la candidate à l'élection présidentielle, nous ne sommes pas dépendants des hydrocarbures algériens. Elle ajoute que la normalisation des relations est surtout dans l'intérêt de l'Algérie. Les appels à voter Emmanuel Macron se multiplient pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir le 24 avril. L'historien Benjamin Stora, auteur d'un rapport sur les questions mémorielles remis à Emmanuel Macron, estime que le programme de Marine Le Pen est un programme d'exclusion des minorités. Selon lui, son élection mettrait en danger le processus de réconciliation et d'amitié entre la France et l'Algérie. Benjamin Stora.
Il y a effectivement toute une série de pratiques, de déclarations et d'histoires où on voit très exactement la candidate Marine Le Pen se situer dans une filiation historique qui est celle, disons, de l'exclusion hein, des minorités étrangères en France, bien sûr, bon, sur toute une série d'aspects, comme suppression des aides, etc., enfin bref. Et puis aussi, au plan de la politique française, il y a des restrictions démocratiques par l'utilisation, disons, perpétuelle du référendum qui vise à casser toute représentation intermédiaire, ce qu'on appelle la démocratie représentative, qui, à mon sens, est quelque chose de dangereux hein, pour la vie démocratique du pays. Et puis il y a d'autres choses hein, sur lesquelles je ne reviens pas, en particulier en politique internationale, l'alignement complet depuis plusieurs années sur la politique de la Russie.
Alors elle a fait des déclarations sur l'Algérie, elle a conditionné l'octroi de visa au retour des Algériens expulsés. Elle a estimé aussi que l'Algérie avait intérêt à la normalisation des relations avec la France. Vous avez le sentiment que le processus de réconciliation entamé sous François Hollande et Emmanuel Macron serait en danger si elle était élue ?
Ah, je pense que le processus, disons, de réconciliation ou tout simplement d'amitié, au sens de traité d'amitié, comme l'avait voulu faire le président Chirac dans les années 2000, oui, serait mis en danger dans la mesure où il y a à chaque fois de la conditionnalité. C'est-à-dire dans le rapport d'État à État, à chaque fois, on exige, disons, du pays, de l'Algérie, de faire ceci ou cela pour pouvoir faire un démarrage, disons, de relations communes. C'est-à-dire qu'il y a des a priori, des exigences d'a priori qui sont formulées au détriment, disons, d'un rapport classique sur le plan politique, économique ou mémoriel. Et c'est ça aussi qui met en danger, effectivement, la possibilité d'avoir une entente sereine avec l'Algérie.
Qu'est-ce que vous répondez aux électeurs qui disent au deuxième tour ce sera ni Le Pen ni Macron ?
Bah, c'est que c'est pas la même chose, hein, parce que vous savez, moi j'ai remis un rapport au président de la République sur les questions mémorielles, en particulier sur le fait de la reconnaissance par la France d'un certain nombre d'exactions qui avaient été commises, notamment pendant la guerre d'Algérie, aussi pendant la colonisation. Et le président de la République, Emmanuel Macron, avait procédé à un certain nombre de gestes. On se souvient en particulier de ce qu'il a décidé sur Boris Audin, sur l'avocat Maître Ali Boumengel, aussi bien sûr ce qu'il a fait sur la reconnaissance du massacre du 17 octobre 1961 des travailleurs algériens à Paris. Je pourrais comme ça multiplier les gestes, disons, de reconnaissance mémorielle. Avec une candidate comme celle du Front National, bon bah il est évident qu'il n'y aurait absolument plus rien, puisque Marine Le Pen et Louis Alliot ont condamné ce rapport fermement en expliquant qu'il n'y avait aucun geste mémoriel à faire en direction, disons, de l'histoire coloniale. C'était une histoire, selon eux, absolument parfaite. Donc il n'y a pas, entre guillemets, à faire de repentance. Hein, c'est le terme qu'ils utilisent depuis de nombreuses années. Et donc à partir de là, oui, il y a un danger dans cette sorte de repli identitaire extrêmement puissant, dans la valorisation d'une histoire coloniale, tout simplement, hein, considérée comme histoire naturelle du nationalisme français. Et là, à mon avis, ça va être très difficile à faire accepter, pas simplement par l'Algérie, mais par l'ensemble des pays anciennement colonisés, hein, je veux dire, bon, il y a le Maroc, la Tunisie, toute l'Afrique, bien sûr, etc., qui vont pas accepter la remise en cause même du principe de décolonisation.
L'historien Benjamin Stora. Parmi les mesures proposées par Marine Le Pen, l'interdiction du port du voile dans la rue et dans les transports en commun. Entretien avec Nicolas Cadenne, fondateur avec Jean-Louis Bianco de l'association La Vigie de la Laïcité.
Une telle proposition serait totalement contraire à la loi de 1905 et plus largement à la laïcité. Elle serait même contraire à notre constitution, puisque notre constitution garantit la liberté à chacun de manifester ses opinions, y compris bien sûr religieuses, et donc dans l'espace public, donc dans la rue. Donc oui, il y a un vrai danger avec une telle mesure de mettre un terme à notre système laïque, mais aussi, et de toute façon plus largement, de sortir de l'état de droit.
Sortir de l'état de droit, vous pensez que Marine Le Pen, présidente, la France ne serait plus tout à fait une démocratie?
Écoutez, en tout cas, ce type de proposition ne s'inscrit pas dans un état de droit, parce que dans un état de droit, on n'interdit pas tout ce qui peut déplaire individuellement, on interdit uniquement ce qui trouble l'ordre public. On peut ne pas aimer le port du voile, mais ça relève du débat d'idées. Ça ne doit pas être pour autant l'objet d'une loi d'interdiction dans tout espace. Les signes religieux sont déjà interdits pour tous les fonctionnaires, pour tous ceux qui représentent un service public, ce qui est là, sur le coup, tout à fait légitime, puisque ces fonctionnaires, ceux qui exercent le service public, représentent l'État, représentent l'administration publique, qui évidemment n'a pas de couleur politique, n'a pas d'orientation religieuse ou autre. Mais en revanche, vouloir une interdiction ciblée sur certaines personnes de confession religieuse, de confession là en l'occurrence musulmane, ça pourrait être d'autres confessions dans la rue, une interdiction de manifester une appartenance religieuse dans la rue, dans un espace libre, dès lors que bien sûr on ne camoufle pas son visage, hors crise sanitaire d'ailleurs, ce serait évidemment totalement contraire à nos libertés les plus évidentes.
Est-ce que ce serait contraire aussi aux engagements pris par la France au niveau international, notamment européen?
Oui, de fait, ce serait contraire à l'article 9 et même à d'autres articles de la Convention européenne des droits de l'homme, bien sûr. Mais ce serait aussi contraire d'ailleurs à la Charte de l'Union européenne des droits fondamentaux.
À titre personnel, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon ou d'autres candidats qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron au premier tour et qui envisagent de s'abstenir au second tour?
Pour ce qui concerne les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, je crois que Jean-Luc Mélenchon l'a dit lui-même, à savoir que on ne peut pas dire que Le Pen et Macron, c'est la même chose. En ce sens où, en effet, clairement, Marine Le Pen, on vient de le dire, à un programme qui nous ferait sortir notre pays de l'état de droit et d'un système pleinement démocratique. Donc c'est un danger majeur, c'est celui de l'autoritarisme. Et ça, ce que je viens de dire là, bon, bien sûr, je pourrais le dire à n'importe quel électeur du premier tour.
Vous avez le sentiment que les musulmans seraient les premiers ciblés par Marine Le Pen au-delà de cette mesure sur le voile?
Je pense qu'en effet, les Français de confession musulmane, les musulmans étrangers qui résideraient en France, mais aussi tout étranger, toute personne qui sont en autorisation de résidence en France, mais qui n'ont pas la nationalité française, tous ces gens-là, en effet, toute minorité, plus largement même, hein, au-delà, serait des cibles, malheureusement, d'un pouvoir d'extrême droite. Oui. Moi, j'ai aucune consigne à donner, mais clairement, je pense que face au respect à un danger imminent vis-à-vis de notre démocratie, il faut réagir, oui. Donc, il faut faire en sorte, en effet, d'empêcher, de tout faire pour empêcher. Donc, ça passe, à mon sens, notamment par ce vote, mais même si j'ai pas de consigne moi à donner. Mais oui, je pense qu'en effet, on est là face à un danger réel qu'on ne peut pas sous-estimer. Après, faut faire la distinction entre la possibilité de s'opposer pour ceux qui n'aiment pas le président de la République, ils pourront toujours s'opposer à lui. Et le fait que si on est dans une logique où l'extrême droite l'emporte et où donc la démocratie est potentiellement mise à mal, ben là, ce serait plus, on n'aurait plus forcément les mêmes possibilités d'opposition. On serait plus dans une logique de résistance, j'en sais rien. Mais enfin, il faut quand même prendre la mesure des choses.
Nicolas Cadenne, cofondateur de l'association La Vigie de la Laïcité. L'émissaire de l'ONU, Hans Grünberg, appelle les belligérants au Yémen à respecter la trêve, une trêve en vigueur depuis une dizaine de jours. Il constate qu'elle tient globalement jusque-là. Mais selon lui, il faut être conscient des défis. Selon l'émissaire, l'arrêt des combats va offrir un répit au pays ravagé par plus de 7 ans de guerre. L'invité de rencontre à 16h sur Radio Orient sera Karima Anbar, directrice générale de la fondation Intisar, une fondation qui apporte un soutien psychologique aux femmes réfugiées dans le monde arabe à travers ce qu'on appelle la dramathérapie, extrait de cette émission.
Il y a en moyenne 10 millions de personnes qui sont répertoriées comme étant réfugiées dans la région en raison des conflits en Syrie, en Irak, au Yémen. Et donc, effectivement, les organisations internationales, les organisations humanitaires et non gouvernementales, lorsqu'il y a une urgence, une crise humanitaire, se focalisent bien évidemment sur les premiers soins d'urgence ou bien les premières actions qui doivent être mises en œuvre sur le terrain, à savoir de protéger ces populations, donc de leur offrir un abri. C'est parfois des tentes lorsque on est dans des zones loin des villes, hein, si je puis dire. Donc c'est un abri, de la nourriture et parfois une assistance médicale physique. Et on oublie donc de réparer l'âme, comme vous dites. Et malheureusement, justement, on cherche justement à pallier cela parce qu'il y a un vrai besoin d'accompagnement pour ces populations, d'autant plus que on ne tient pas assez compte de cette dimension-là qui concerne la transmission du traumatisme intergénérationnel. C'est un traumatisme qui se transmet d'une génération à l'autre. Et nous avons étudié le cas de plusieurs pays, notamment les programmes qui ont été mis en place au Rwanda après le génocide. Nous avons étudié les cas de programmes qui ont été mis en place en Irlande. Et on s'est inspiré de cela parce que ces pays ont compris que pour reconstruire une société, il faut reconstruire les âmes, il faut un accompagnement psychologique et surtout mettre fin au cycle des violences, en fait.
Alors, Karima Anbar, la fondation Intisar a mis en place une méthode basée sur la dramathérapie, c'est un terme anglais. En fait, c'est l'utilisation du théâtre pour aider ces femmes à parler de ce qu'elles ressentent et régler le problème.
Tout à fait. Alors, pourquoi ce choix? Parce qu'on aurait pu faire le choix d'une thérapie, disons, plus classique que l'on trouve un peu partout, à savoir avoir un psychologue en tête à tête avec un bénéficiaire, comme on les appelle, avec l'une de nos femmes, pour réparer les traumatismes dus au conflit. Et puis, bien évidemment, nous sommes conscients que nous travaillons dans une zone assez sensible. Il faut tenir compte du contexte culturel local, des sensibilités, de la pudeur et du stigma qu'il y a autour de la psychologie. Et pour nous, le meilleur choix a été celui de la dramathérapie, qu'on peut appeler vulgairement en français le théâtre thérapeutique, parce qu'il y a un côté non stigmatisant. C'est une thérapie douce et efficace à la fois, et surtout c'est une thérapie de groupe. Et donc ça crée vraiment un esprit de solidarité entre ces femmes, ce qu'on appelle les support groups. Et donc, tout en travaillant de manière efficace sur la dimension psychologique, on crée du lien. Et c'est comme ça qu'on peut reconstruire une société. Nous voyons l'efficacité en termes thérapeutiques, parce que tous les travaux que nous faisons sont mesurés. Nous avons des chercheurs qui assistent au programme avec les thérapeutes. Et donc, nous avons pu mesurer l'impact de chaque programme, et notamment le dernier que nous avons mis en place. 63% des bénéficiaires rapportent, ou en tout cas ce qui a été mesuré, c'est qu'il y a une baisse en termes de dépression, en termes d'anxiété. Il y a une meilleure estime de soi-même par rapport aux personnes qui ont participé au programme. Et donc pour nous, donc la dramathérapie, c'est assez révolutionnaire parce que c'est une thérapie occidentale. Elle a souvent été utilisée pour les vétérans de guerre aux États-Unis, beaucoup utilisée dans les hôpitaux pour les enfants. Et c'est assez révolutionnaire dans le monde arabe parce que c'est pas très connu. Et donc, nous sommes assez pionniers en utilisant cette thérapie.
Karima Anbar, directrice générale de la Fondation Intisar, elle est l'invitée de Rencontre à 16h. Et puis, comme chaque jeudi, et si on en parlait, à 19h, le thème de l'émission, après le premier tour des élections présidentielles, quels enseignements, quels bouleversements pour le paysage politique? Alexis Bachelet recevra Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire, et Virginie Martin, politis à la Kedge Business School. Cette édition est terminée. Retrouvez nos émissions et les journaux sur radioorient.com. À minuit, les prières de Talawir. Je vous retrouve à 15h pour le flash, 18h pour le journal. Excellente journée à tous.